wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute,
émission spéciale.
Arnaud Laporte.
Une émission spéciale de la dispute dont on se serait en effet bien passé puisqu'elle est consacrée ce soir à Claire Boitéchet dont on a appris la mort à l'âge de 79 ans. C'était mardi. Et autour de moi ce soir, pour parler d'elle, Florence Sestac, autrice, illustratrice, éditrice, cofondatrice d'édition Futuropolis, créatrice entre autres d'Harry Mixon, d'Edmond François Ratier, j'oublie toujours un prénom, de Gérard Crétin, enfin que des gens qu'on aime. Vous êtes d'ailleurs avec Catherine Meurice, Jules et Régis Joiselle, la marraine de BD 2020, l'année nationale de la BD. Il en faut quand même de temps en temps les années nationales de cet acabit. Isabelle Vincent-Duplex, vous êtes conservatrice des bibliothèques, programmatrice culturelle au sein du service développement culturel et actualité. Et vous avez été donc la commissaire d'exposition de Claire Boitéchet à la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Et puis mon camarade Antoine Guillot, pilier de la dispute, aussi bien pour le cinéma que pour la bande dessinée, est avec nous. Alors, petit rappel, ou petit, c'est compliqué parce que c'est une vie bien remplie que celle de Claire Boitéchet, née à Nantes en 1940. Elle aurait eu 80 ans le 17 avril prochain. On retrouve d'abord son trait de crayon, son trait d'esprit dans les grands titres de la presse jeunesse franco-belge, Record, Tintin, Spirou, ça, c'est les années 60. Et en 69, elle rejoint l'aventure de Pilote, qui est en train de quand même de propager à ce moment-là un nouveau type de BD et d'humour. Elle y crée le personnage de Cellulite. Elle sera ensuite l'une des cofondatrices de l'Écho des Savanes en 72. Puis de 73 à 80, elle publie chaque semaine dans le Nouvel Observateur une page, ou parfois deux, des frustrés, dont évidemment on parlera, critique sociale qui pointe les travers des ceux qui étaient les lecteurs du Nouvel Observateur à ce moment-là, je sais, puisque mes parents étaient abonnés, et que je lisais évidemment avec un immense plaisir chaque semaine tous les travers que je pouvais constater moi-même. C'est avec le premier album des frustrés que Claire Boitéchet se lance dans l'auto-édition, ce qu'elle fera ensuite pendant une trentaine d'années avant de confier son catalogue à Dargo en 2006. Deuxième série de longue haleine, Agrippine, de 88 à 2009, mais beaucoup d'autres albums dont on parlera évidemment sur la maternité, sur la médecine, sur le tourisme, dans cette veine de satire sociologique. Côté honneur, on en reparlera, un Grand Prix d'Angoulême spécial, remis par les lauréats précédents, c'était en 82, et puis donc cette exposition rétrospective à la BPI du Centre Pompidou en 2015. On y reviendra bien sûr avec vous, Isabelle Massien-Duplec. Pour être un peu plus complet, on vient également de dire que Claire Boitéchet a réalisé beaucoup de travaux d'illustration, qu'elle a aussi travaillé pour la publicité, qu'elle a eu une activité importante de peintre, de portraitiste. Et enfin, je ne le savais pas, j'ai lu qu'elle avait soutenu en 99 un mémoire de maîtrise en psychologie à l'Université de Nanterre, intitulé, c'est un beau titre, « Existence d'un amorçage différencié selon la nature de l'humeur », ce qui doit parler évidemment à beaucoup de gens, moi le premier. Peut-être un premier tour de table pour vous entendre une première fois les unes et l'autre ce soir. Peut-être une question faussement simple. L'œuvre phare de Claire Boitéchet, selon vous, Florence Sestac, ce serait laquelle?
Oh, c'est tout. Non, mais c'est l'auteur dans toute sa splendeur, l'auteur de bande dessinée dans toute sa splendeur. Elle s'est créée une identité graphique. C'est une super dialoguiste, c'est une super scénariste. Tout. Elle a tout, quoi.
Il faut
elle
pour tout prendre. Mais on va
voilà.
Essayer tout.
C'est assez rare dans le métier l'auteur qui fait tout.
On va essayer de décliner ces idées-là. Pour vous, Isabelle Bassin-Duplex.
Les frustrés, c'est extraordinaire. C'est très, très riche. Moi, j'ai beaucoup aimé le Bolo. Mmh. Et j'aimais beaucoup aussi Le Destin de Monique.
Alors, Bolo, c'est une aventure peut-être moins connue parce que la diffusion, c'était dans Le Sauvage.
Dans Le Sauvage, oui.
Dans Le Sauvage, me semble-t-il, que paraissaient les aventures de ce chien lubrique, on y reviendra, qui voulait forniquer avec toutes les autres espèces. Et pourquoi pas, on peut le comprendre. Non, on va mettre quand même des guillemets d'humour, j'espère aussi, ce soir, autour de nos discussions. Antoine Guillot, pour vous, vous avez ramené quelques volumes.
Bah oui, parce que on est triste, mais on est heureux en même temps parce qu'on se replonge dans toute l'œuvre de Claire Bretéché. Alors l'œuvre phare, c'est évidemment Les Frustrés, parce que c'est celle qui dépasse la bande dessinée, c'est-à-dire c'est l'œuvre qui est lue par des gens qui d'habitude ne lisent pas de bande dessinée, donc ça devient un élément immense de la culture française, au-delà même de la forme, enfin du médium qui est utilisé. Moi, j'ai une tendresse toute particulière pour Cellulite. Cellulite, qui est cette princesse mal embouchée et qui est moche. Et c'est la première fois qu'on va faire d'un personnage de bande dessinée un personnage moche qui, pour autant, n'est pas dévalorisé, c'est-à-dire utilisé comme juste le personnage moche. C'est un personnage qui existe formidablement, qui est une princesse, qui n'a qu'une obsession, c'est se marier, qui a un père tyrannique et qui est très libidineuse, ce qui, dans la bande dessinée grand public de 1969, c'est publié dans Pilote, était quand même assez rare. Et moi, j'aime beaucoup les personnages, vous le savez, qui font la gueule.
Oui, mais alors pour vous donner encore plus raison, Antoine Guillon, on va entendre quelques extraits d'entretien qu'avait pu donner Claire Bretéché, notamment sur France Culture, dans l'émission Temps Libre, c'était en 1974, elle répondait à quelques questions d'Harold Portnoy, et notamment sur le fait qu'on lui reprochait beaucoup de dessiner des femmes laides.
Ce que beaucoup de gens me reprochent, c'est de faire des femmes laides, parce que on considère que les femmes en dessin ne doivent jamais être laides. D'ailleurs, en bande dessinée, ça a longtemps été une règle absolument intangible. Il ne faut pas faire de femmes laides, d'abord parce que les lecteurs ne supportent pas, ça les traumatise, et puis parce que les femmes, à supposer qu'elles lisaient bande dessinée, ce qu'elles font grâce au ciel maintenant, ça les traumatise aussi parce que la femme est un être séraphique et beau par définition. Alors donc, il ne fallait pas faire de femmes laides. Ça, c'est... Et si vous lisez des bandes dessinées classiques, genre Astérix... Vous verrez que les filles sont toujours traitées d'une façon Walt Disney, gentille, jolie. Comme dans Walt Disney d'ailleurs. Enfin, pensez à Blanche-Neige ou Cendrillon. Par opposition au personnage masculin, c'est toujours des pépés. Alors ça m'a toujours profondément énervée parce que, d'une part, moi je me trouvais moche et d'autre part, je trouvais que la genre féminine n'était pas particulièrement réussie par rapport à la genre masculine.
On reviendra sur ce que pensait Claire Bretéché d'elle-même un peu plus tard dans cette émission. Mais en entendant ça, Florence Estac, je me dis que d'avoir comme ça une aînée de quelques années tout de même qui fait ça, ça libère aussi. Ça a été libérateur pour vous ?
À un moment, c'est elle qui a ouvert la voie, vraiment. Moi, je l'ai suivie après, bien sûr. Parce que quand j'ai découvert ces bandes dessinées, j'ai dit oh, « mais on peut faire ça, on peut dessiner des femmes comme ça, avec des bourrelets partout, des fesses pleines de cellulite et en parler ouvertement. Ah, » pour moi, c'était jouissif, quoi, vraiment. Et donc, bien sûr, je me suis pris la brèche.
Oui, c'est important, Antoine Guillot, de resituer quand même les choses. J'ai donné quelques dates tout à l'heure pour situer le fait que Claire Bretéché, oui, effectivement, comme le dit Florence Estac, elle ouvre une voie. Elle est là où les femmes n'étaient pas forcément. C'est une dimension dont on parlera plus tard. Mais en dehors de tout cela, femme ou homme, elle ouvre une voie tout à fait singulière, Claire Bretéché.
Oui, et à plusieurs moments de son parcours. C'est-à-dire que quand on se replonge dans ses débuts, par exemple, quand elle dessine à la fois pour Tintin et Spirou, ce qui à l'époque ne se fait pas du tout, hein, on est soit d'une famille, soit de l'autre, on sent qu'elle cherche un peu sa voie, mais elle en trouve une très vite qui est très singulière parce qu'il me semble qu'elle apporte quelque chose qui vient du dessin anglo-saxon, qui n'est pas l'influence majoritaire qu'il y a dans la bande dessinée franco-belge à l'époque, ou alors la bande dessinée d'aventure à la Milton Caniff qui influence Jigé, Giraud, etc. Mais elle vient du dessin de presse, c'est-à-dire qu'il y a du Ronald Searle dedans, il y a du Otto Soglo, celui qui faisait le petit roi Little King, dont elle va prendre le nez en trompette comme ça, qu'elle va donner à Cellulite. Il y a du Wizard of Id, enfin tout ce qu'on voit dans la presse américaine et qui est publié bon an mal an dans la presse française. Et quand on voit par exemple les gnangnans qu'elle faisait dans Spirou, il faut quand même l'audace d'un Yvan Delporte pour la faire rentrer dans ce temple de la bande dessinée humoristique qu'est Spirou. Et les gnangnans, c'est les peanuts dessinés par Ronald Searle, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est l'humour comme ça des enfants qui ont des préoccupations d'adultes et même des bébés, hein. C'est beaucoup sur les bébés, mais avec un dessin extrêmement vif, extrêmement lâché, dont on a l'impression qu'il est improvisé à même la feuille, alors qu'on est plutôt dans l'époque du crayonné, de l'ancrage, qui apporte une modernité immense. Et c'est pas pour rien que Goscinny va la faire venir à Pilote en 1969, au moment où il ouvre le journal aux anciens d'Arakiri, les Rezer, les GB et autres, parce qu'elle apporte une modernité graphique. Et on a beaucoup parlé, il me semble, de la Claire Bretécher sociologue, c'est-à-dire appliquant, enfin surtout sur la question de la langue, et on va en parler, qui est extraordinaire, mais graphiquement, déjà, elle invente quelque chose. Et quand elle va faire les frustrés, son style va complètement se libérer, là où c'était encore assez anguleux, assez géométrique, c'est très frappant dans Cellulite, là, elle va inventer un vrai langage graphique.
La mollesse.
Et ça, on le voit apparaître en direct. Mais c'est même pas mollesse, c'est l'avachie.
L'avachie.
Pas exactement
l'avachie,
absolument. La même chose.
Alors, Florence Sestac, opinez à chacun de vos phrases.
Parce que... c'est ça, quoi.
Oui. Non, mais parce qu'on a l'impression que c'est un dessin lâché et tout ça, mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce que c'est aller à l'os, quoi. Épurer à chaque fois pour garder juste le trait qu'il faut et tout ça. Elle bossait beaucoup, hein, Claire.
Sur ses débuts, quand on a vu l'exposition Isabelle Bastien-Duplex à la BPI de Beaubourg, on a quand même, effectivement, ces surprises-là. Moi, j'ai connu Bretécher dans l'Aube, je le disais, parce que c'est ma génération en tant qu'enfant. Vous avez été surprise vous-même de ce que vous avez pu découvrir et permettre au plus grand public de voir?
Son parcours est incroyable. Et effectivement, on a consacré toute une partie à ce parcours en détaillant... tous les titres pour lesquels elle a dessiné, elle a travaillé. Et on a fait émerger, agrandi les personnages au fur et à mesure de leur naissance. Et ça a été un grand plaisir de scander comme ça le parcours chronologique. Mmh. D'agrandir les personnages et de les montrer vraiment dans toute leur force, quoi. C'était formidable. Alors bon, c'est ce parcours, mais c'est aussi toute la richesse de sa peinture qu'on a vraiment souhaité montrer, parce que c'était une peintre de portraits, elle peignait ses proches et elle-même. N'était pas tendre,
hein. Ouais. Les autoportraits.
Mais on a vraiment voulu montrer ça. Le personnage public, c'était une star. Moi, j'ai passé énormément de temps à l'INA, enfin à la Bibliothèque nationale, à voir des émissions, à écouter des. Et elle était. Bon, elle était magnifique, mais elle avait une présence, elle avait beaucoup de
présence
charisme.
Folle, ouais, ouais. On voit là, beaucoup d'interviews qu'on a pu voir ces derniers jours, hélas pour de mauvaises raisons, mais ça permet de montrer que cette parole, elle était quand même très singulière dans le paysage médiatique. Alors, elle était de plus en plus rare, sa parole, mais peut-être revenir à l'origine et revenir à ce qui crée ce regard, peut-être, en tout cas une des explications de Claire Bretécher, encore une fois dans cette émission de 1974 où elle revient sur ses jeunes années.
Tout le monde a une revanche à prendre sur son éducation, c'est-à-dire qu'on vous élève, enfin peut-être plus les gosses maintenant, parce que quand même les gens ont un peu évolué, mais on vous élève dans l'idée que le monde est un truc extrêmement bien ordonné, enfin il y a la nature qui fait bien les choses, ou bien c'est le bon Dieu qui fait bien les choses, de toute façon vos parents font bien les choses, et... quand on commence à prendre un peu de jugement, on s'aperçoit qu'ils font pas du tout bien les choses, que la nature fait pas bien les choses, que le bon Dieu fait pas bien les choses, que les parents ne font que des bêtises. Alors, c'est amusant. J'ai eu l'éducation classique, bourgeoise, catholique. Très, très classique, très bourgeoise et très catholique. Donc, grotesque. Mais enfin, je veux dire que l'éducation catholique, enfin l'éducation religieuse en général... vraiment, on rencontre l'absurde sans arrêt, parce que ce qu'on vous apprend est tellement en contradiction avec ce que vous pouvez observer dans l'existence que... Alors là, c'est vraiment une bonne éducation pour avoir le sens de l'absurde, à mon avis.
Alors vous aussi, Florence Estac, comme René Pétillon d'ailleurs, avec qui vous avez co-signé un super cateau, vous en parlez aussi dans Filles des oiseaux, cette éducation religieuse, elle a été importante pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre?
Oui, c'est exactement ça. Moi aussi, j'étais chez les sœurs, j'étais en province, j'étais à Honfleur, et j'ai passé toute ma scolarité chez les sœurs. Et donc, soit vous restez dans le truc, ou sinon vous explosez tout, quoi. Et donc, moi, j'ai fini aux Beaux-Arts, et après à 68, donc c'était le bonheur. Bonheur total.
Avec un passage par la case prison, parce qu'il fallait faire des exemples à ce moment-là. Hein.
Oui, voilà. Ouais. J'ai fait, oui, voilà. J'ai
on déchiré. Touche pas au drapeau.
J'étais condamné pour vol et destruction d'emblèmes nationaux.
Ouais. Voilà. Vous n'avez pas été nombreux et nombreux, encore heureux, mais en l'occurrence, vous l'avez véritablement vécu, Florence Estac.
C'est
et
ça. Et à mon père, voilà.
Et qui a payé l'amende, hein, qui était forte aussi, tout, me semble-t-il. Oui, mais cette éducation, ça crée le sens de l'absurde aussi, cette éducation religieuse.
Ben oui, parce que soit on tombe dedans, puis on devient complètement... On suit la voie, on va se marier, on va se marier à l'église et tout ça, on suit la voie. Sinon, on devient rebelle, quoi. Mm. Et donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Et quand on prend un peu de la distance pour regarder effectivement comment ça se passe, on peut qu'en rire, quoi. Forcément. Sinon, c'est trop triste.
Alors, c'est évident qu'il y a quand même un certain nombre de similitudes dans votre parcours et puis dans votre engagement avec ceux de Claire Boitéché. Alors, on rappelle quand même que le Grand Prix d'Angoulême, bon, c'est un débat récurrent, avec un Grand Prix qui est remis depuis 1974, n'avait jusqu'en 2019 sacré qu'une seule femme, vous. C'était en 2000, parce qu'il a fallu attendre l'année dernière pour avoir la deuxième, Rumiko Takahashi. Claire Boitéché, elle avait reçu un prix spécial du 10e anniversaire. Hein.
C'est ça.
Pas un grand prix. Il voilà. faut quand même rectifier les choses. Non, mais...
Pour moi, c'est clair qu'elle est...
Non, mais c'est pour dire. Oui. Cette année-là, il y a eu un grand prix qui était un homme. La même année que Claire Boitéché.
Voilà.
C'est quand même un milieu... Alors, dont elle parle aussi, là c'était dans une autre émission de France Culture qui était de bon plaisir, c'était en 89, alors il faut aussi quand même dater parce que comme il va être question d'Harakiri et de Charlie, que les propos de Claire Boitéché pourraient être entendus en 2020 un peu différemment, je précise hein, cette date, 1989, voilà ce qu'elle disait au micro de Paul Pagliano.
Je suis allée à Harakiri tout à fait au début, de toute façon j'allais partout, parce que j'essayais tout, et ils m'ont et conduit, ils avaient entièrement raison parce que ce que je faisais était sans intérêt, c'était très pompé sur Searle, c'était pas du tout abouti, c'était... Mais cela dit, je pense que tous ceux qui ont commencé à Harakiri n'étaient pas aboutis non plus. Hein, ils se sont développés parce qu'ils ont bossé comme des fous et qu'ils étaient dirigés par des tyrans, comme nous à Pilote. Mais enfin, j'ai été reçu par Fred, qui est quand même un ami formidable, maintenant, mais qui à l'époque m'achetait. Et il avait entièrement raison. Mais par la suite, alors qu'Havana m'a beaucoup demandé de venir à Charlie, mais moi je supportais absolument pas l'ambiance de sous-off de sous-préfecture qui régnait à Charlie Hebdo. C'était absolument épouvantable. C'était effroyable. Oh là là là. J'aurais préféré crever que de bosser dans ce milieu.
Bon, les propos sont clairs, ils sont de 89. C'est toujours très clair dans ce qu'elle dit.
Bien sûr, mais je pense que effectivement, c'était violent. Hein. Quand t'es une femme dans ce genre de milieu, c'était violent. Les mecs étaient vraiment violents, très agressifs, quoi. Donc, soit vous avez beaucoup d'humour et puis vous encaissiez, et puis vous en jetez une réplique pour leur répondre, mais il fallait vraiment beaucoup d'humour. Hein.
Antoine Guillaume.
Oui, mais je crois que c'était aussi le caractère de Claire Boitéché, c'est-à-dire que c'était une indépendante, c'était une solitaire, enfin même dans les réunions de rédaction de Pilote, par exemple, c'était celle qui s'asseyait au fond et qui laissait parler. Jean-Daniel raconte, c'était dans une préface d'une des éditions des Frustrés, quand il lui a proposé le projet, d'abord, il a dit non, je vois pas ce que je peux faire, etc. Bon, il l'a convaincue, mais elle ne mettait quasiment jamais les pieds au journal. Enfin, c'était pas une femme de bande, quoi. Alors qu'en même temps, c'est une observation extraordinaire, mais on la sent toujours celle qui regarde et qui est un peu en retrait. Et je crois pas qu'elle ait fait voilà. Elle avait sans doute plein d'amis et on se réjouit pour eux, mais on l'imagine pas quelqu'un de groupe qui va
non,
faire.
Non, c'était effectivement une solitaire, un peu une sauvage aussi. Puis elle était très intimidante, donc c'était pas facile de rentrer en relation avec elle. Mais une fois que vous aimez bien, c'était bon.
J'imagine bien. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer une fois. Vous voyez, moi, je suis allé la voir dans son nid d'aigle, Montmartre 3, à l'époque où elle montrait enfin ses peintures, parce qu'on découvrait qu'elle était peintre et qu'elle les publiait. Et alors, quand vous dites qu'elle était intimidante, c'est l'intimidante intimidée. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce sentiment que, voilà, on allait voir un monument de la bande dessinée et au-delà, enfin, vraiment de la culture française, mais elle était presque un peu gênée de vous montrer, ah bon, mais vraiment, etc. Avec ce côté, elle a été beaucoup caricaturée comme ça, de ce côté, ce très très beau visage qu'elle avait, mais barré d'un pli, comme ça, d'amertume, on pourrait dire. C'est comme ça que, je sais, Mandrika, par exemple, à l'époque de l'Écho des savanes, ou Gottlieb l'a caricaturée beaucoup comme ça, la grande fille intimidante, mais avec cette bouche-là, comme ça, qui vous dit, il ne faut pas plaisanter avec moi.
Vous voulez entendre le portrait qu'en fait Charles Berberian, que vous connaissez bien, évidemment, c'est ce qu'il disait sur Claire Bretéchet, c'est en 2015 au micro d'Anne Douer.
J'aime beaucoup comment Claire Bretéchet se dessine, parce qu'elle accentue son sourire inversé, c'est-à-dire que c'est pas du tout un sourire, mais c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, et comme toutes les personnes qui ont énormément d'humour, je crois que c'est une forme d'élégance pour masquer aussi une certaine mélancolie, quelque chose de plus rugueux que léger. Dans sa manière de traduire son visage, c'est comme si elle dessinait son portrait de Dorian Gray. Elle serait ce que raconte l'histoire de Dorian Gray dans le livre d'Oscar Wilde, c'est-à-dire elle est belle, toujours belle, elle a des traits fins, et puis quand elle se dessine, c'est une espèce de veau, on a l'impression qu'elle s'est pas douchée depuis deux semaines, on a l'impression qu'elle va s'enterrer dans sa planche à dessin ou dans son pot d'encre, mais ça la rend très fragile, le contraire de ce qu'elle est en réalité aussi, enfin en tout cas ce qu'elle donne à voir, c'est une femme qui est très sûre d'elle, enfin en tout cas quand elle s'exprime avec autant d'acuité que quand elle dessine. Elle est précise, on lui fait pas dire ce qu'elle a pas envie de dire, elle se laisse pas entraîner dans quelque chose qui la gonfle, elle sait se préserver. Et donc j'aime beaucoup, elle sait beaucoup dessiner, elle a fait beaucoup d'autoportraits d'elle, et elle se dessine en plus à chaque fois de manière différente. Une fois elle a le visage ovale, presque sans menton. Une autre fois, elle se dessine avec un visage très très carré, très 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 anguleux.
Isabelle Bastien-Duplex, ses autoportraits, on en a pu voir quelques-uns à la BPI. Comment ça s'est passé pour la sélection des pièces présentées? Quelles étaient ses demandes ou ses exigences peut-être?
Alors, on a travaillé chez elle dans son atelier, puisque son atelier est à côté de sa maison sur le toit du parking. Et on a travaillé avec Michel Lioré, son agent, à la sélection. Donc, pratiquement toutes ses archives étaient là. Et,
elle gardait tout, hein.
Oui.
Même les brouillons, paraît-il, les calques.
Ouais. Ouais, mais elle a perdu pas mal de choses pendant des déménagements. Enfin, ça
l'a affecté.
Oui, ça l'a affecté d'avoir perdu beaucoup de choses. Et puis elle revenait parfois sur certaines. Elle demandait à Michel, mais c'est où? Je suis sûre que c'est encore que ça a été perdu. Et puis les imprimeurs, ça revenait pas. On a sélectionné. Elle venait nous voir, mais elle n'a absolument rien exigé ou souhaité. Parfois, on lui faisait choisir entre plusieurs pièces. Et par contre, elle a un sampé chez elle qu'elle n'a pas voulu prêter. Elle a voulu qu'il sorte. Donc moi j'avais travaillé un scénario et donc je choisissais aussi en fonction des angles que j'avais pensé et ça s'est fait. Et puis moi j'avais sélectionné parmi ces milliers de dessins, j'avais sélectionné certaines planches. Mais elle a été extraordinaire parce qu'elle nous a laissé entièrement libre et sa liberté, enfin on voyait bien que c'est une femme très libre toute jeune. Moi, je l'ai beaucoup imaginé débarquant à Paris à 20 ans dans les années 60. La force qu'elle avait et cette indépendance. Et voilà, cette liberté, elle nous l'a aussi laissée.
Antoine Guillaume ?
Est-ce qu'elle vous a raconté la raison pour laquelle elle s'est mise à la peinture ? Parce que je le disais, c'était une activité longtemps ignorée et secrète. Et c'est vrai que quand on voit des expositions, par exemple, à la BPI, mais bon, maintenant c'est en train de changer, mais longtemps, les expositions de bande dessinée montraient aussi les travaux de peinture, une façon de montrer, bon d'accord, c'est un dessinateur, mais c'est un peintre, donc c'est un artiste et on peut l'exposer. Il me semble que chez elle, ça n'a jamais été le cas, comme certains auteurs de bande dessinée, et là encore, se sentant complexés par rapport à l'art avec un grand A, vont se mettre à la peinture et évidemment.
Nous avons tous des noms en tête.
Évidemment, ils sont bien meilleurs dans leur dessin. Je ne parle pas de Florence Estac qui redécore, qui redessine les tableaux de biche, ça c'est un bonheur. C'est un bonheur absolu. Mais est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle faisait ça et pourquoi. Elle a mis du temps avant de le montrer.
Non, moi j'ignorais qu'elle peignait et la première fois je suis arrivée chez elle, j'ai été éblouie et je me suis dit voilà, il faut en montrer.
Elle a été réticente ou pas du tout ?
Non. Alors elle a choisi. Elle a participé à la sélection, parce qu'on n'a pas montré beaucoup de tableaux. Alors, j'ai un souvenir de l'émission La Dispute, où il a été question au Centre Pompidou, on fait une exposition sur une dessinatrice de bande dessinée, mais on met en avant les tableaux parce que la peinture, c'est plus noble.
L'art. Avec un grand A.
Et là, effectivement, je pense que ce sont, c'est le domaine où elle s'est peut-être le plus engagée dans le choix des pièces. Sélectionné.
Florence Estac, selon vous, est-ce que vous en avez parlé avec elle, l'importance de la peinture dans sa pratique ou dans son bien-être ?
Oui, mais pour elle, c'était presque un hobby, comme ça, à côté. Elle faisait ça quand elle avait le temps et tout. Pour elle, c'était pas important, mais c'est vrai qu'elle était extrêmement douée, quoi. Extrêmement douée. Surtout au pastel. Elle maniait le pastel, c'est très difficile, le pastel. Et elle, c'était une virtuose, quoi. Et donc, pour elle, c'était annexe. C'était pour son plaisir, pratiquement, quoi.
Mais il faut le croire, quand elle disait ça, il fallait la croire,
je pense. Oui, parce que...
Elle aimait ça.
Oui.
Ça lui faisait plaisir, oui. C'était comme si, voilà, un truc à côté qui lui faisait plaisir. Elle se faisait plaisir avec ça, voilà.
Bah, elle avait bien raison.
Et puis souvent, les auteurs de bande dessinée qui se lancent justement dans la peinture ou dans le truc annexe, c'est souvent une catastrophe, mais elle, c'était une... Vraiment une bonne. Quoi.
Oui, parce que c'était par impulsion personnelle, voilà. par goût personnel. Revenir quand même, on fait des allers-retours passé-présent, mais ça c'est un peu habituel dans ce type d'émission. J'évoquais tout à l'heure cette éducation catholique, que vous connaissez bien aussi, Florence Estac, ce que vous connaissez bien aussi aux chrétiennes. Ce que vous connaissez bien, ce sont les combats aussi, une forme de militantisme, notamment féministe, qui vous est commun. Mais un combat qui se joue, d'ailleurs pour vous aussi, mais pour Claire Boitéché, peut-être encore davantage, dans l'acte créatif. C'est pas quelqu'un qui allait avec des banderoles.
Non, c'est pas une militante, non. Mais effectivement, son travail est tellement fort qu'elle n'a pas besoin, quoi.
Ça se joue là,
oui, oui,
pour
vraiment,
elle.
Vraiment, oui, oui. Et toujours, et ça reste toujours d'actualité. Moi, ce matin, je me suis relis les frustrés et tout, tout ça. C'est formidablement d'actualité, quoi. Il y a des sujets qui restent formidablement d'actualité. C'est formidable, quoi.
Mais c'est pas une chose qu'elle aimait commenter ou au contraire surligner. C'est vraiment quelque chose qui passait dans le dessin, dans les albums, parce que j'ai évoqué des albums en dehors des séries qu'on connaît, mais Le Destin de Monique, notamment, 83. Oui, question, on dit aujourd'hui GPA, enfin, gestation assistée, mère porteuse, etc. C'était des sujets dont elle s'emparait il y a donc bientôt 40 ans, à une époque où la société française n'était pas tout à fait sensible et encore moins réceptive à ce type de questionnement. Ça, elle y allait
Ah oui, elle y allait franchement, et puis elle ne mâchait pas ses mots. C'est ça, elle y allait franco. Et même, je suis sûre qu'elle a fait des choses maintenant qui ne passeraient plus maintenant, quoi. Mmh. C'est pas la première page des Frustrés d'un album que j'ai lu. C'est une femme avec un petit môme et tout. Et puis le petit môme pique sa crise, il veut de l'eau, il veut manger et tout ça. Et puis à la fin, il baisse sa culotte à lui dire, bah non, tu vas pas baisser ta culotte et tout. Et puis le môme gueule encore plus. Et à la fin, la femme se déshabille, mais elle a quelques fourchons sur la banquette et elle dit à l'autre, il faut que je lui cède, sinon il va encore hurler, quoi. Donc, vous pouvez plus faire ça. Pas possible.
Ça passerait pas très bien. Isabelle Bassin-Duplex.
Pas en ce moment.
Pardon ?
Surtout pas en ce moment.
Non. Mais cette dimension d'implication dans les débats sociaux, tellement en avance en même temps que c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment encore le débat quand Claire Bretéché s'empare de tel ou tel sujet. Elle en parle avant tout le monde. C'est ça qu'on pouvait voir aussi dans l'exposition de la BPI.
Oui, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée et ce que j'ai souhaité mettre en avant. Elle était précurseur sans être militante. Et elle montrait, par exemple, par rapport au féminisme, elle montrait les situations de dépendance des femmes dans ses planches. Elle les montrait, donc on était presque automatiquement choqués de ça. Mais par rapport à la PMA et même à l'homoparentalité, j'étais vraiment saisie par cette vision qu'elle avait. Et puis bon, en plus c'est le prétexte, parce que le destin de Monique, c'est quand même le prétexte d'une histoire incroyable avec un fœtus qui se retrouve mélangé à des embryons de veau en partance pour le Japon.
Incroyable.
Elle y allait.
Et puis, je pensais aussi à l'accent de sa femme de ménage portugaise. Je ne suis pas sûre que ça passe très, très bien aujourd'hui. Parce qu'il se plaint toujours, qu'il y a toujours une boule, qu'il ne peut pas travailler.
Et même ce qu'elle dit aussi, il y a un album consacré aux mères. Là aussi, elle en parle d'une certaine façon avant tout le monde. Ça doit être quoi, 80 par là, cet album, dont j'oublie le titre, mais qui est vraiment sur la...
Les mères
hein, c'est ça, tout simplement. Je suis plus sûr. C'est quand même des choses qui aujourd'hui commence à se dire depuis quelques années, mais quand même pas beaucoup. Et là encore, on y va toujours, Antoine Guillot, dans des sujets qui font pas plaisir à beaucoup de gens à ce moment-là.
Oui, mais ce qui me semble qui ne passerait plus aujourd'hui, c'est précisément qu'elle a un humour très complexe. elle fait un peu comme l'appelait GB au début des années 70, de faire un pas de côté et de regarder et de réfléchir et d'avoir un regard extrêmement distancié. C'est-à-dire que quand elle va raconter le féminisme, quand elle va raconter la charge mentale, effectivement avant tout le monde, quand elle va montrer ses situations d'asservissement, elle le fera toujours avec une telle ironie qu'on n'est jamais dans le discours de dénonciation et qu'elle montre à quel point il y a aussi beaucoup un auto-asservissement, une telle intégration de toutes ces logiques-là qu'on a ces personnages de frustrés. C'est pas pour rien que ça s'appelle les frustrés. C'est-à-dire que sans arrêt, ça va être sur ces questions-là, mais aussi sur les questions politiques, sur les questions d'éducation, sur les questions de religion et autres. Elle va montrer comment on se goberge de discours pour se donner l'impression d'être libre ou en voie de libération, alors qu'on ne fait qu'organiser son propre enfermement. Et cette ironie-là, cette complexité-là serait aujourd'hui certainement immédiatement dénoncée parce que n'étant pas aussi claire qu'on a besoin qu'elle soit pour les réseaux sociaux et autres. Donc il faut, je pense, une certaine éducation à l'humour, malgré tout, comprendre pleinement et ne pas être bêtement choqué par une histoire de Bretéché, parce que c'est d'abord d'elle qu'elle se moque, et du milieu dont elle vient, et du milieu qu'elle observe, et donc de nous en général. Il faut avoir un peu d'humour sur soi-même, un minimum, pour pouvoir apprécier pleinement son œuvre.
Elle en parlait aussi, toujours dans cette émission Temps Libre, en 1974, avec Harold Portnoy, de cette notion d'absurde.
J'arrive pas à me dire que je fais vraiment un travail. Parce que d'abord, quand j'étais gosse, je faisais déjà des bandes dessinées à tour de bras et au lieu de faire mes versions. Et maintenant, en fait, c'est la même chose. Et ce qui est bien, c'est que c'est un travail stupide. Enfin, plus votre histoire est bête, et meilleure elle est. Et moi, ça me satisfait énormément de faire de l'absurde. Enfin, j'aimerais faire du plus absurde, mais j'y arrive pas. Je crois qu'il y a un fondement rationnel que j'arrive pas à éliminer complètement. J'ai des copains qui y arrivent bien, mais moi, j'ai encore du chemin à faire. Bah, pourquoi ? J'en sais rien. Il y a que ça qui me plaît. Il y a que l'absurde qui m'intéresse. Je veux dire que... c'était vraiment des banalités épouvantables. Mais enfin, je trouve que la vie est d'une absurdité incroyable et réjouissante. Et que plus les détails de la vie sont absurdes, et plus on se rapproche donc de la vie, donc mieux ça vaut, plus c'est réjouissant, plus je suis content.
Alors ça, c'est la jeune Claire Bretéché, hein, 74 pour cette archive, on est à peine au début des frustrés. Alors je ne sais pas si elle pense absolument ce qu'elle dit, ou si elle n'a pas encore tout à fait osé dire qu'elle avait affiné son style, qu'elle sera... deux ans ou quatre, trois ans plus tard, quand Roland Barthes la désigne sociologue de l'année 1976. C'est une blague, mais ça n'en est pas une. En tout cas, il le dit très sérieusement. Le prix est une blague, mais pas le fond de la pensée de Roland.
Bourdieu
sur Agrippine, quelques années plus tard. Il y a cette dimension sociologique. Alors, c'est vrai qu'on l'a... On peut imaginer qu'on l'a peut-être trop réduit à cela, et c'est pour ça qu'il est important de parler et de sa peinture et de son écriture. On le fera, j'espère, dans un instant aussi. Mais malgré tout, est-ce que c'est pas le plus grand héritage, finalement, de Claire Bretéché, d'avoir permis à tellement d'auteurs et d'autrices aujourd'hui de s'emparer de sujets tout à fait... de société, quand on pense à Riad Satouf, à Catherine Meurice, à Pénélope Bagieu, à Terreur Graphique, il y a un héritage, Bretéché, Florence Estac.
Ah bah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai fait Le Démon de Midi, je pense que je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas Bretéché avant moi, quoi. D'y aller, et de parler de soi, et puis d'y aller vraiment, de s'exprimer, de tout lâcher, là, c'est elle qui voilà, elle l'a fait très bien, et donc... Moi, je me suis senti, je me suis dit, j'y vais moi aussi.
Avec Noémie,
oui, voilà,
notre héroïne, voilà. Dont on suit les mésaventures depuis quelque temps déjà.
J'ai raconté mon histoire et c'est fou, cet album a eu un gros succès parce qu'il y a plein de femmes qui se sont reconnues dans le sujet. Et je ne me rendais pas compte, je mettais vraiment le doigt sur un fait de société, vraiment, de l'époque. Quoi.
Et vous continuez. Depuis, on la retrouve régulièrement,
bien sûr,
Noémie.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça fait une pièce de théâtre, ça fait un film et tout, et c'est drôle, quoi. Alors qu'au départ, j'ai fait ça presque pour me faire du bien, quoi.
Ouais, mais oser parler de soi, oser parler du monde, oser parler de celles et ceux avec qui l'on vit, que l'on côtoie, que l'on regarde, c'est vraiment un apport. Ça a l'air banal aujourd'hui, mais c'est quand même un apport essentiel, Isabelle Bastien Duplex de Claire Bretéché.
Ben, je ne sais pas si elle... Enfin, elle ne parlait pas de soi directement, puisqu'elle était tout de même très, très réservée. Mais... par rapport au féminisme dont on parlait tout à l'heure, elle épinglait les féministes aussi. Elle ridiculise. Mais je pense que... Bon, elle se cachait beaucoup.
Elle se cache beaucoup, mais elle est partout aussi. Parce qu'elle se moque d'elle-même, d'abord.
Oui, sans doute. Elle se moque de son milieu, elle se moque... Et ce que j'avais... ce qui m'avait frappé, c'est que ça constitue ses dessins, ses histoires, ça constitue vraiment un miroir dans lequel on décèle aussi nos mesquineries, notamment, quoi. Parce qu'elle est... elle est dans le détail de ces petites choses qu'on peut... observer, soit chez les autres, soit chez soi-même.
Les mesquineries et les névroses. Non, mais c'était d'ouvrir la voie. On peut dire aussi, en dehors des aventures de Noémie, que les ados, Laura et Ludo, ça, c'est aussi...
C'est elle qui est avec Agrippine.
Avec Agrippine, qui lance tout ça. Et c'est aujourd'hui les cahiers d'Esther aussi, d'une certaine façon. Tout ça, c'est l'héritage.
Bien sûr, parce que effectivement, les enfants qu'elle dessine, les ados et tout ça, elle est féroce, hein, elle est féroce. Et c'était une première, quoi, parce que voilà.
Isabelle.
Et à propos d'héritage, donc dans le cadre de l'exposition, on a organisé une programmation associée, donc avec des débats, des rencontres. Il y avait une séance sur l'héritage de Bretéché. Et nous avions invité Catherine Meurice et Aude Picot. et Fabienne Dumont, qui est historienne de l'art, et Catherine Meurice, donc effectivement parle de modèles, et nous allons organiser, enfin adapter une exposition sur Catherine Meurice, donc à la BPI, et nous reprenons une exposition produite par le festival, par 9e art, pour Angoulême, qui est actuellement présentée à Angoulême jusque début mars. Et donc Catherine Meurice, et dans cette exposition que nous avons visitée, il y a une planche de Bretéché, comme l'inspiration, l'une des artistes qui l'a inspirée.
Antoine Guillot.
Oui, parce qu'évidemment, elle a inventé une forme, elle n'a pas été la seule. Hein. Il y a un héritage qui part des pages d'actualité de Pilote. Et au même moment, Gérard Lozier va faire aussi un travail de sociologie comme en dessiné. Il ne parle pas exactement du même point de vue et du même milieu. Mais c'est vrai que le succès phénoménal des Frustrés fait que tout d'un coup, ça s'impose qu'on puisse parler de la vie de tous les jours en bande dessinée, de ne pas avoir un héros récurrent qui vienne le faire à votre place. Et de ce fait, je pense qu'à Riyad Satouf, non seulement parce qu'il occupe la même place aujourd'hui dans le Nouvel Observateur, mais c'est moins d'ailleurs au Cahier d'Esther que je pense, mais à La Vie Secrète des Jeunes, qui était une formidable entreprise de sociologie, précisément, de la violence quotidienne dans la rue parisienne, dans le métro, etc. Et pourquoi ça se rapproche, c'est pas tant sur le style graphique que sur l'oreille. Il y a une façon extraordinaire qu'a Riyad Satouf de retranscrire le langage d'aujourd'hui, comme l'avait dans Les Frustrés Claire Bretéché. Ce qui est très étonnant après, c'est que quand elle va s'attaquer aux adolescents, elle va inventer une langue. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la retranscription de ce qu'elle entend et du verbiage qui nous sert à cacher nos angoisses et nos lâchetés. Elle va inventer et pousser jusqu'au délire la façon dont les jeunes s'emparent du langage, et notamment par le verlan et le double verlan qui transforme de la mer en rhum, en meur, par exemple. Et l'invention langagière à ce moment-là de Claire Bretéché va très au-delà de la sociologie. C'est-à-dire, je ne suis même pas sûr que quand elle fait Agrippine, elle parle vraiment de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle part là dans une invention surréaliste que je trouve complètement délirante et très plaisante. Ça a prouvé qu'elle pouvait aussi dépasser, on pourrait dire, elle a fait Les Frustrés et puis après elle a décliné Les Frustrés. C'est aller bien au-delà de ça. Quand elle fait La Vie de Thérèse d'Avila, on touche à quelque chose qui est très juste sur le lien entre désir érotique et extase mystique. Et ça devient quelque chose qui est au-delà même de la sociologie. Il ne faudrait pas la réduire uniquement à ça.
Non, mais justement, on est là pour au contraire élargir. Mais comme on parlait de cette sévérité ou de cette férocité, je propose d'écouter là ce qu'en disait celui qui était son compagnon, disparu avant elle, Guy Carcassonne.
Ce qui fait que, pour qui ne la connaît pas, elle a quelque chose d'impressionnant. C'est moins la perspective de se retrouver croqué en frustré que le fait que quelqu'un qui fait ce genre de dessin et de création, on lui attribue naturellement une acuité du regard, une aptitude à juger, une éventuelle sévérité qui impressionne. Alors qu'en réalité, à l'expérience, elle n'est pas du tout comme ça. Je veux dire, elle ne juge pas les gens, elle ne les regarde pas avec un a priori défavorable. Et si elle impressionne les gens, ce qui est indiscutable, et qui d'ailleurs parfois peut provoquer de la part de ses interlocuteurs des attitudes un petit peu agressives, elle en est beaucoup plus victime que responsable.
Vous en pensez quoi?
Oui, c'est vrai qu'elle était impressionnante, mais c'était une grande timide en même temps. Donc c'était un espèce de positionnement pour se défendre, elle n'aimait pas trop qu'on rentre dans son monde. Quoi.
Mais c'est vrai que quand on a...
Se préserver de tout ça.
Quand on rencontre celle qui pouvait croquer aussi bien tous nos travers, nos névroses, dans les aspects les plus minables, voire pathétiques, on se sentait observé quand même. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va retenir de ce que je vais dire? Est-ce qu'il y a quand même comme, quelque chose comme ça avec Laurence Sestac?
Oui, on faisait attention à ce qu'on disait et tout ça, et on savait que, oui, qu'on était observés, mais bon, ça, c'est l'auteur de bande dessinée, comme ça, il prend des photos avec son appareil, avec son cerveau, on enregistre des images et des expressions et tout ça, et après, on remet ça à notre mode bande dessinée, quoi.
Ben, vous avez comparé vos façons de faire, vous en parliez toutes les deux?
Non, pas vraiment, non.
Pas de, on parlait pas de cuisine entre vous?
Non, non, on parlait de cuisine, de la vraie cuisine.
La vraie, celle qu'on mange, cuisine. Pas de cuisine BD.
Qu'est-ce qu'on va manger et tout ça, mais BD, comment tu fais non, non, pas du tout, jamais.
Ça se partage pas?
Je sais pas, on a chacun notre style, chacun notre cuisine à faire, et voilà, on n'en parlait pas.
Antoine Guillot?
Moi, je veux bien croire, n'ayant rencontré Claire Boitéché qu'une fois, je veux bien croire ce que dit Guy Carcassonne, parce que à la lecture des livres, et je parlais de Gérard Lozier tout à l'heure, il me semble que là où le regard est différent, c'est que c'est acide, mais ce n'est pas méchant. Et je ne sens jamais de mépris de la part de Claire Boitéché pour les personnages qu'elle dessine, et au contraire, même dans la façon de dessiner des corps qui ne sont pas standardisés précisément, avec la cellulite et la peau d'orange dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même une tendresse pour une humanité blessée, pour des gens qui sont plus pathétiques que ridicules. Et ça, c'est très frappant quand on le voit aujourd'hui. Donc je suis pas sûr. Je ne crois pas qu'elle jugeait les gens. Elle les observait et elle les retranscrivait, ce qui n'est pas exactement pareil.
Non, non, oui, bien sûr.
Mais elle avait un regard impressionnant.
Un regard et une oreille. Hein, je reprécise.
Un regard qui voilà. On se demandait ce qu'elle pensait et elle pouvait ne pas parler.
Elle semblait boudeuse dans son coin.
Oui,
on ne savait pas si elle était fâchée ou pas.
On demandait ce qui allait se passer, mais non, elle pouvait rester comme ça et regarder très intensément aussi.
Alors c'est vrai que Antoine, vous faites bien de le souligner, la question de l'écriture chez Claire Boitéché, évidemment impressionnante. Implacable, enfin, il y a quand même une sorte d'efficacité absolue de chacun de ces dialogues, ça va très vite, il se dit beaucoup de choses, ou des fois presque rien, et c'est évidemment la petite chose qui fait que la situation dévie. Alors du coup, je me demandais, mais quelle lectrice était-elle? Alors j'ai eu un bout de réponse, là encore, dans l'émission Le Bon Plaisir, en 89, sur France Culture, sur ses goûts.
Et moi, j'ai un goût littéraire très... Je suis pas très branchée sur la grande littérature. J'aime toujours la littérature un peu... Bon, par exemple, si vous voulez, un de mes livres préférés, c'est Don Camillo, que je trouve un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Un autre livre préféré... Mais j'ai aussi des vieux livres que je relis tout le temps. Ma mère avait un livre qui s'appelait Le voleur de Bagdad, qu'elle m'a donné. Le type qui l'a écrit s'appelle Ahmed Abdullah et était scénariste à Hollywood. Je ne sais pas si le film a été tiré de son livre ou s'il a écrit le livre, mais je crois qu'à l'époque, on n'écrivait pas de livre d'après le film qui venait d'être tourné, ça ne se faisait pas. Et c'est un livre absolument formidable qui m'a donné un intérêt pour la civilisation arabe qui ne s'est jamais démenti. Enfin, je l'ai lu quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans. C'est un pur chef-d'œuvre. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure c'est un peu extrait des Mille et une nuits, mais les Mille et une nuits, j'ai toujours trouvé ça mortel d'ennui. Même une nuit me tue. Alors, Le voleur de Bagdad, c'est tout à fait autre chose. Bon, alors ça, j'adore. Sinon, je lis régulièrement, tout le temps, un roman de Nancy Mitford qui s'appelle L'amour dans un climat froid, que je lis même en anglais. Une fois que j'ai fini en français, je lis en anglais. Parce que je sais lire en anglais que les livres que j'ai déjà lus en français. Alors, ça limite évidemment mes lectures anglaises. C'est très cynique et absurde. Et d'un réalisme insoutenable. Moi, j'ai horreur du réalisme, sauf quand c'est cynique et absurde. Par exemple, j'aime pas Proust parce que c'est trop réaliste. La langue est magnifique, mais je supporte absolument pas que la vie soit décrite telle qu'elle est parce que ça me stresse. Ça détruit ma foi en l'avenir, si vous voulez.
Ça ne veut pas être simple d'interviewer, on entend notre consoeur qui rigole sans arrêt au propos de Claire Boitéché, vous dire c'était hilarant, ça me donne très envie de lire Don Camillo, j'avoue que je ne sais même pas qui en est l'auteur.
Non, puis j'ai jamais lu, moi, par exemple.
Je vais faire une recherche, parce qu'on
a
envie, non?
Oui, oui.
Voilà, les prescriptrices, Claire Boitéché, mais c'est vrai que les sources, les origines, est-ce que c'était des questions que vous avez pu lui poser en préparant l'exposition, Isabelle Bastien-Duplex? D'où ça vient? Comment ça se crée un style pareil? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est évidemment assez mystérieux.
Non, elle avait peu de souvenirs en fait. Mmh. Donc on n'a pas beaucoup discuté de ses sources. Moi j'ai beaucoup appris en écoutant, comme je vous disais, des archives audiovisuelles. Et tout en me méfiant de ce qu'elle disait, parce que je pense que voilà, elle n'était pas
selon le jour, selon l'humeur.
Hein, tout à fait, oui.
On se rappelle du titre de son mémoire.
Je pense qu'elle, selon les jours et l'humeur, elle ne devait pas être très facile à interviewer. Je pense aussi.
Par ailleurs, oui, il y avait des bons jours, elle rigolait. Mais cette écriture, alors il se trouve que France Culture va rediffuser dans 2-3 semaines. Je donnerai là tout à l'heure l'adaptation qui avait été faite sur notre antenne d'Agrippine. Ça a été le cas aussi pour Canal+, en dessin animé cette fois. Moi, j'avoue que je devrais pas le dire sur cette antenne, quelques réserves sur cette adaptation, parce que je trouve que c'est très compliqué de donner à entendre des voix quand on lit Claire Bretéché, quand on lit d'une certaine façon beaucoup de vrais auteurs, autrices de bande dessinée. C'est compliqué. On entend nous-mêmes nos voix, en entendre enregistrer, c'est compliqué, Florence.
Oui, c'est très compliqué. Et puis même d'animer son dessin, qui est un dessin qui est effectivement magnifique, posé comme ça, et de l'animer, c'est très difficile. Donc, on est toujours un peu déçu, oui. Et puis, même les dialogues, ça marche pas aussi bien. Enfin, bah, oui, c'est difficile. C'est très difficile.
Bah, ça montre, par l'absurde, ce qu'elle aurait aimé, que la bande dessinée est un art et qu'il ne peut pas être décliné sur d'autres supports, sans Antoine Guillot.
C'est pas à moi qu'il faut le dire, parce qu'évidemment,
je le dis.
Elle a un sens du dialogue extraordinaire, mais c'est pas une dialoguiste dans la mesure où il suffirait de mettre ça, même si ça s'est fait sur une scène de théâtre, pour que ce soit aussi irrésistiblement drôle. Vous parlez de son écriture. Moi, ce qui me passionne chez Bretéché, c'est que c'est une écriture graphique. Alors, déjà, la façon de mettre en scène le texte à l'intérieur de ces images qui semblent flotter comme ça au-dessus des personnages, écrit en écriture cursive, ce qui ne se fait jamais dans la bande dessinée, où on écrit pour des raisons de lisibilité, de reproductibilité. Il n'y a que Jean-Christophe Menu qui aujourd'hui continue à écrire en écriture cursive comme ça. Là, c'est vraiment son écriture à elle qu'on voit.
Et c'est très important qu'elle le soit.
Ensuite, vous remarquerez qu'il n'y a aucune majuscule en début de phrase et il n'y a pas de ponctuation à la fin. Donc on a une parole qui flotte comme ça et dont on sent qu'elle peut ne jamais s'arrêter. Il n'y a pas de chute chez elle, par exemple. Très rarement, c'est pas des gags à chute, c'est un moment d'une conversation de la vie des gens. Et puis ensuite, elle a inventé un langage graphique. Par exemple, on oublie que dans Les Frustrés, il y a beaucoup de planches muettes qui reposent uniquement sur le dessin, sur l'observation.
Sur les regards,
là, je tombe sur un jour de grève où une femme se lave les cheveux dans l'évier et puis pas de pause, c'est la grève de l'électricité, elle peut pas se laisser sécher. Donc, elle court dans l'appartement avec son peignoir ouvert, le sein avachi, pour finir par se dire bah finalement je vais m'allonger et lire un livre, ça ira mieux comme ça. C'est du pur bonheur graphique. Et la grande force de Claire Bretéché, et avec, on le disait au début, ce dessin avachi, c'est quelqu'un qui a inventé des formes. C'est-à-dire qu'on ne voit, on a tous dans la tête ces jambes qui dépassent d'un canapé où parfois on ne voit même plus la tête. Charles Berger.
C'est le genou qui est le plus haut, hein, plus haut que la tête.
Et comme dans un effet de grand angle.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais,
qu'il y a, ouais. La tête est beaucoup plus petite que les pieds par cet effet de profondeur. Et ça, Charles Berberian, qu'on a entendu tout à l'heure, va s'en souvenir quand il va faire sa page hebdomadaire dans Grazia, où il va montrer des jeunes filles avachies dans des fauteuils, discutant comme on peut le faire aujourd'hui. Donc c'est une grande créatrice graphique avant tout, et les dialogues, formidables, mais ça fait partie d'un tout.
Un dernier mot là-dessus, Florence Sestac.
Oui, c'est comme j'avais dit au départ, c'est une auteure de bande dessinée à part entière, graphiquement, dialoguement, tout quoi.
Voilà, c'est un tout. Je ne sais pas poser cette question quand même pour terminer, Isabelle Massien-Duplex. Elle a réagi comment, Claire Bretéché, quand elle a découvert l'exposition à la BPI?
Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup, beaucoup aimé.
Elle était surprise, elle était un peu émue, elle a montré quelque chose quand même, parce que sa pudeur quand même est évidente.
Elle était très émue, donc on lui a fait visiter l'exposition à la fin du montage, et deux, trois jours avant l'inauguration. Et il y avait une journaliste qui était là, qui essayait de lui poser des questions, et qu'est-ce que vous pensez de l'exposition ? Elle l'a regardée en disant et vous, vous en pensez quoi ? Mais son fils Martin m'a confirmé que ça avait été vraiment un grand moment enfin un grand moment, mais pendant la préparation également, elle était heureuse.
Merci à tous trois, Florence Estac, Isabelle Bastien-Duplex, Antoine Guillot, d'être venus parler ce soir si bien de Claire Bretéchet. Vous trouverez, bien sûr, pour l'auditrice et l'auditeur, un dossier très complet qui lui est consacré sur le site internet de France Culture. La série À voix nue, 5 fois une demi-heure d'entretien menée par Claude Kegeman, sera rediffusée la semaine du 9 mars et puis un peu plus tard, donc la semaine du 23 mars, vous pourrez entendre ou réentendre le feuilleton France Culture en 5 épisodes réalisés à partir d'Agrippine. Comme on n'est pas très en avance, Solal Schindler qui nous a rejoint va passer tout de suite à la question du jeu de ce soir. On va faire gagner des places de cinéma pour aller voir Satan Tango, le film de Bellatar qui ressort en version restaurée 4K au cinéma. Quelle est la question, Lola ?
En quelle année Satan Tango est-il sorti pour la première fois au cinéma ?
Votre réponse, vos coordonnées postales, tout ça à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Émission préparée par Aïssa Tundoy, Lucine Como, Boris Pinot, Lola Schindler, prise de son Sylvain Latueux, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, ce sera une dispute régulière, une dispute cinéma. En l'occurrence...